Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Emmenons dans le sud des États-Unis cette semaine dans l'épopée et précisément dans le Mississippi où trois musiciens français ont eu la bonne idée de confronter leurs racines culturelles à celles des bluesmen africains-américains à travers un périple qui les a plongés dans la réalité sociale et musicale d'une région assez rude où le blues vit le jour il y a plus d'un siècle. Tia Gutebel, Gilles Chabenat et Marc Globo sont nos invités. Soyez les bienvenus.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez aujourd'hui un disque intitulé Muddy Gurdy, qui a été enregistré dans le Mississippi au contact de musiciens locaux qui perpétuent la tradition de leurs aînés. Avant de nous raconter votre séjour dans la campagne sudiste américaine, expliquez-nous l'intention de ce projet, Marc Glomo.
Eh bien, c'est déjà un peu un cheminement personnel, parce que moi j'ai toujours fait, je suis originaire du centre de la France, une petite ville qui s'appelle Montluçon. Entouré par des campagnes où les instruments traditionnels avaient leur place. Et quand j'étais gamin, la vielle était l'instrument dont on parlait beaucoup et qui, pour moi, symbolisait tout ce qui pouvait être ringard. Donc, je me suis donc échappé de ça pour faire des musiques, beaucoup des musiques caraïbes, d'ailleurs. Et à un peu plus de 45, 48 ans, j'ai commencé à me réintéresser à ça en me disant « Mais c'est incroyable, tu as passé ta vie à faire des voyages musicaux, mais tu t'es jamais véritablement attaché à tes racines. » Et j'ai commencé à travailler sur un projet avec un musicien américain, avec Gilles Chabenat à la vielle, et sur le croisement des musiques vénézuéliennes, du jazz et des musiques caraïbes. La rencontre avec Tia a fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Bon, ça, on expliquera ça un petit peu mieux, mais pour moi, c'était surtout de prendre cet instrument-là et de me dire, cet instrument qui est emblématique de nos cultures du Centre-France, il a sa place dans d'autres musiques. Et pourquoi pas, parce que nous, on a des blues ruraux, et ces blues ruraux, ben, ils sont exactement faits de la même veine que les autres blues qu'il peut y avoir dans le Maghreb, qu'il peut y avoir aux États-Unis, parce qu'ils sont portés de toute façon par des gens qui travaillent la terre et qui ont une condition de vie difficile. Mais ce qui est complètement fou, c'est que la vie a toujours repris le dessus avec la musique. Et moi, je pense que toutes les musiques sont liées. Après, il suffit de fouiner. Et quand on fouine dans les racines de ces musiques, quelles qu'elles soient, on trouve des liens. Si Gilles y prend sa vielle et qu'il va en Inde, il n'aura pas besoin de parler les langues. En Afrique, pareil, il trouvera toujours quelqu'un avec la musique avec qui communiquer. Donc pour moi, il y a un lien, pas qu'avec les musiques d'origine africaine, ou je crois que c'est juste la musique qui est réellement, alors je sais que c'est une immense porte ouverte qu'on enfonce, mais c'est vraiment ça qui nous lie, quoi. Les hommes, quoi. On a ce truc-là avec la musique, avec le son.
Ce qui explique vos échanges, justement, si naturels avec les musiciens afro-américains que vous avez rencontrés sur le continent américain, notamment dans le sud, dans le Mississippi, Gilles Chabonin.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une démarche en fait, qui est complémentaire de celle de Marc. Mais en fait, moi, je suis parti de la vielle, mais je n'ai pas eu de problème avec cet instrument, simplement parce que j'ai débuté dans un groupe folklorique. J'aime bien ce mot, même s'il est chargé parfois d'une image péjorative, avec des gens charmants qui m'ont fait découvrir cet instrument, donc j'avais pas de problème avec ça. Mais mon idée très tôt, ça a été de jouer n'importe quelle musique, avec beaucoup de candeur et de naïveté, sur cet instrument. Je me suis dit, il y a toutes les notes, il n'y a pas de raison. Donc ça nous amène effectivement à la rencontre qu'on a fait grâce à Tia et Marco. Les choses se sont faites de manière assez naturelle. Alors, le piège sur ce genre de projet, c'est de chercher le plus petit dénominateur commun, évidemment. On peut faire une musique assez insipide, mais c'est vrai que quand on va à la rencontre des gens et que vraiment, avec respect, qu'il y a un vrai dialogue, enfin, la volonté de dialoguer et de partager, les choses se font assez naturellement et assez... Moi, j'étais assez bluffé par ce projet parce que c'est vraiment l'idée de Tia et de Marco. Je tiens à leur rendre hommage pour ça. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, ça va forcément être bien parce qu'on va rencontrer des gens très talentueux. Mais j'étais pas sûr que ce serait aussi évident que ça. Et en fait, comme on avait bien préparé le projet, en fait, on a enregistré plein de versions, tous les trois, on a travaillé, et on n'a pas du tout fait ça, évidemment. Mais je pense que si on n'avait pas fait ce travail, le résultat ne serait pas le même.
Exactement.
Et donc, on avait réfléchi sur ce répertoire, avec notre point de vue, en tout cas. Et très vite, tout ce qu'on vient d'entendre, là, en introduction, ça s'est fait assez rapidement, quoi.
Le premier bluesman que l'on découvre grâce à vous en ouverture de ce disque, c'est donc Cedric Burnside, que nous venons d'entendre. Qui est-il? D'où vient-il? Et où a eu lieu l'enregistrement?
Alors, Cedric Burnside, c'est le petit-fils du grand Harrell Burnside, qui était un bluesman qui venait de cette région-là, du nord du Mississippi. Donc, il a joué très jeune avec son grand-père, dont il partageait la vie, puisqu'ils habitaient tous dans une maison à deux pièces, à, je sais pas, peut-être 20 personnes. Même s'ils étaient pauvres, il y avait de la musique tout le temps chez lui, les voisins qui venaient, donc il avait l'impression que la vie, elle était chouette, quoi. Il est batteur avec son grand-père et puis il s'est mis à la guitare il y a quelques temps et il chante aussi. Et on a enregistré chez un homme que j'adore, que j'avais rencontré auparavant, qui est un gars complètement hallucinant. C'est un monsieur qui a 70 ans à peu près, qui a été compagnon de route de musiciens qui sont très emblématiques de cette région, comme le plus connu qui s'appelait Mississippi Fred McDowell, dont les Rolling Stones ont repris des titres pour citer les gens les plus connus. Il a été compagnon de route aussi de Jessie Mayhemfield, qui était une guitariste chanteuse de cette région aussi, une musicienne très importante de là-bas. Et Sherman, sa famille en fait est de là-bas depuis 1800, enfin c'est quelqu'un qui collectionne des objets, il a un des Fender Rhodes de Ray Charles, il a le lit de la plus vieille maison close de la Nouvelle-Orléans, il a les guitares de Jessie Mayhemfield qui m'a fait essayer.
Quel est le nom de la ville où vous étiez?
C'est Como.
Como.
C'est une ville où il y a, je crois, 2000 habitants, 20 églises. Et une histoire assez extraordinaire, parce que c'est une toute petite ville, mais il y a vraiment des musiciens qui ont vraiment marqué l'histoire du blues là-bas.
Como, c'est aussi la ville des Como Mamas, trois chanteuses de gospel dont le dernier album Move Upstairs a été très remarqué en 2018. Vous les avez rencontrées, les Como Mamas?
Oui, alors c'est marrant parce que la dernière fois que j'étais à Como, je suis allée dans une église où j'aime beaucoup aller, qui s'appelle Hunter Chapel. Et je suis arrivée exactement en même temps que les Como Mamas qui venaient aussi chanter. On les a déjà rencontrées, elles sont venues chanter en Auvergne, donc dans le centre de la France, là où on habite, dans une toute petite église au fin front du Livradois-Forez, dans un tout petit village, donc oui, on les connaît un petit peu, ouais.
Revenons à Maudie Gurdy, vous avez presque réalisé un documentaire audio à travers ce disque, car vous avez conservé vos conversations avec vos interlocuteurs.
That girl is bad, she is so fine. When I see her walk, I'm glad she's mine.
It's really hard for me to sing that. Especially the key. That girl is...
Yeah. Well, you know what? I tried to do the rap part while I was playing the guitar.
Try it. You
We could try it. Yeah. We could try it.
We'll be right back. woke up in the morning, she was in my head. All I could think about was she did to me in bed. That girl is bad, I thought she was. That girl is bad, I thought she was. I thought she was. I told her she can handle me, have her calling my name. But the thing she did to my ding-a-ling had me calling her name. That girl is bad, that's what she is. That girl is bad, that's what she is. That's what she is.
The Girl is Bad, voilà encore un écho de votre rencontre avec Cedric Burnside, le petit-fils du légendaire R.L. Burnside. Tia, Marc, Gilles, Accomo, vous avez aussi enregistré avec Chardé Thomas. Qui est cette jeune femme, Gilles ?
Alors moi, je l'ai découverte aussi grâce à Marc et Tia. J'avais une image, avant qu'on fasse ce projet, j'avais une image, on va dire, classique, pour pas dire plus, du blues, comme ce que tout le monde connaît. Et là, c'est incroyable parce que c'est avec un fifre, c'est une flûte aiguë, avec un son très aigu. Et les fifres, on en retrouve sous différentes formes dans le monde entier. Mais la forme percussion et fifre, flûte aiguë, ça, on le retrouve partout parce que des percussions, mais évidemment, ça fait le rythme, ça nourrit le rythme. Et le fifre, comme c'est un son aigu, ça passe quoi qu'il arrive.
Donc, c'est les fanfares qui avaient
c'est une sorte de fanfare,
à la tête des armées.
C'est
en fait.
Ça.
Les armées étaient toujours précédées de leurs fanfares avec caisse claire. Et...
Ce que je trouve incroyable, c'est à quel point les traditions, justement, peuvent récupérer n'importe quel instrument. Enfin, ça va dans le sens que je disais tout à l'heure. Tout est récupéré, et transformé et approprié pour en faire quelque chose de très vernaculaire, de très personnel.
Ce qui est dingue, c'est que ce style de musique qui s'appelle le fife and drums, donc le fifre et les batteries, on va dire, c'est plein d'influences différentes. On parle beaucoup de la Suisse avec donc ces fameux joueurs de fifre qui jouaient dans des contextes un peu militaires, mais beaucoup d'Afrique aussi. On a l'impression que c'est un mélange de plein de choses, mais moi quand je l'écoute, ça me fait quand même beaucoup penser à l'Afrique, quoi. Après les chansons que chante donc Chardé ou que chantait son grand-père, qui était quelqu'un très emblématique de cette musique, le Fife and Drums.
Qui s'appelait Otha Turner.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup aussi des chansons gospel au final. C'est une manière de jouer qui est un petit peu particulière puisque c'est une musique qui se joue pas sur une scène, c'est plutôt au milieu des gens, en déambulant avec des gens qui vont alpaguer telle ou telle personne, danser autour du joueur de fifre. C'est un moment convivial entre des gens du même coin, quoi.
Finalement, des deux côtés de l'Atlantique, des musiciens ont continué à utiliser des instruments traditionnels. C'est ce qui vous a rapproché d'ailleurs lors de votre périple américain, Marc Glemeau ?
Bah oui, de toute façon, je pense que c'est clair que l'instrument, les premières journées qu'on a passées là-bas, c'était drôle parce que Gilles avait emmené une petite vielle autrichienne qu'il a, qui n'était pas du tout la même vielle qu'il utilisait auparavant. Une vielle qui est très acoustique, du coup, qui a du son vraiment, déjà, elle a du son tout de suite, quoi. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et il l'a trimballé avec lui. À chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un dans la rue, on est allé au festival de blues de Clarksdale, notamment. Il sortait le truc et il faisait une petite démo. On a croisé David Evans, on a croisé Cameron Kimbrough, Cédric, tout ça. Et tout le monde était là, oh, mais c'est quoi ? C'est incroyable ce truc et tout. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est des instruments qui appartiennent à, on va dire, une sorte de musique de terroir, je ne sais pas. Et là, du coup, ça prend une autre dimension parce qu'ils découvrent quelque chose. Donc l'idée du truc, c'est que, en fait, c'est ce que nous a dit un journaliste qui s'appelle Scott Barretta, qui est un journaliste assez connu là-bas, qui écrit pour une grosse revue blues, et qui nous a dit, en fait, vous êtes arrivés là avec quelque chose à donner. Parce que les trois quarts du temps, quand les gens viennent, en plus ils viennent peu dans ces régions du nord Mississippi, qui sont vraiment des régions pauvres. Et Scott nous a dit, c'est vrai, vous êtes arrivé avec un instrument qui vient d'Europe. Et ça, les mecs qui viennent là, ils font jamais ça. Ils viennent ici pour chercher une caution musicale. Tiens, j'ai joué avec machin. Ah, dis donc, et quand ils rentrent en France, bon, bah, ils se font un peu briller les godasses avec ce truc. Ça n'a jamais été notre démarche, parce qu'en plus... Nous, avec Gilles, en plus, on est des candides parce que le blues, c'est pas une musique qu'on connaît aussi bien que Tia. On n'a pas cette culture-là et on a un infini respect pour ça parce qu'on est conscient qu'on ne devient pas musicien de blues en claquant des doigts, quoi. Mais c'est vrai que du coup, Scott disait ça. Là, ils sont touchés par ça. Parce que vous arrivez avec un truc. Et vous dites, voilà ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble.
On a plutôt essayé de trouver des correspondances plutôt que de faire de l'imitation, quoi.
Alors, expliquez-nous ce qu'est faut le préciser, on parle de la vielle depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'une vielle à roue ?
Une vielle à roue, c'est un drôle de violon. Tout le monde, je pense, connaît le violon qui est muni d'un archet qui met les cordes en vibration. Et moi, mon archet, il est un peu bizarre. C'est une roue en bois sur laquelle sont posées les cordes. Donc, quand je tourne la manivelle, ça met la roue en action et ça permet de faire un son infini jusqu'à épuisement du violiste. Et donc, c'est entre le violon et l'orgue. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît pas très surprenant d'avoir un son très long, mais en fait, c'est presque le premier synthétiseur de l'histoire de la musique.
Donc, ça veut dire qu'il y a un clavier quand même sur la vielle à roue?
Il y a un clavier qui permet de changer les notes, mais quand on tourne la roue, effectivement, on peut avoir des notes très longues. Et au départ, l'utilité de cet instrument, c'était d'accompagner le chant, de soutenir le chant, ce qui permettait aux chanteurs de reprendre leur souffle sur des nappes, comme on dit aujourd'hui, pour le synthétiseur, ou comme on a dit avant, pour l'orgue ou l'accordéon, par exemple.
Donc, la réaction des habitants sur place aux États-Unis a dû être assez incroyable, quand même, de voir débarquer cet instrument totalement inconnu pour eux.
Oui, mais alors, moi, je suis toujours. Alors, j'ai eu quelques expériences en Amérique du Nord, ce que je trouve par rapport aux Européens, où on est peut-être plus cérébraux par rapport à ça. Les gens aux États-Unis, quand ils découvrent quelque chose de nouveau, je pense que c'est dans leur culture, me semble-t-il, et c'est immédiatement normal. Enfin, c'est juste, ah ouais, c'est chouette. Et dans un deuxième temps, ils disent, mais alors ça marche comment ?
Mais il y a quand même une curiosité.
Une très grande curiosité, mais il n'y a pas de besoin de commencer par la justification. C'est bah, avec Cédric Banzai, par exemple, lui qui arrive avec une culture très très forte. On a commencé à jouer, il fait, bon, bah ok, on y va. Puis après, il me dit, mais alors ça marche comment ton truc? Mais ça lui pose pas de problème, quoi. Et donc ça, c'est très agréable.
Et c'est un instrument qui date du Moyen-Âge.
Voilà, la première trace connue, qui sont des traces iconographiques, c'est 11e siècle. Enfin, voilà.
En tout cas, le résultat de ce partage patrimonial, ça donne ça. Glory, Alléluia, c'était Chardé Thomas avec le trio Hypnotic Wheels, composé de Tia Gutebel, Marc Glomo et Gilles Chabonnat, nous invités dans l'épopée. Parlons maintenant de Cameron Kimbrough. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce monsieur Tia?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Cameron Kimbrough, moi je l'ai rencontré dans un juke joint qui s'appelait le Pooh Monkey. Et en fait, on s'est retrouvés à jouer ensemble, lui il était à la batterie. Et on s'est super bien entendu. Il y avait sa maman qui chante aussi, qui était là. Ça a été une chouette rencontre. Cameron Kimbrough, c'est un des petits-fils de Junior Kimbrough, qui est un musicien extrêmement emblématique du nord du Mississippi. Cameron donc joue aussi de la guitare et chante. Donc on a décidé de l'inviter à faire deux morceaux avec nous. Un morceau de son grand-père et un morceau à lui.
Quelle impression vous a laissé cette région rurale américaine, Marc, Gilles ou Tia?
Ah bah moi c'est ma deuxième maison maintenant. Mais bon après moi je suis très sensible à l'histoire du blues et tout. Je trouve que cette terre elle respire quelque chose de vraiment unique.
Marc?
Ouais, moi j'y pensais la première fois que j'ai mis les pieds là-bas c'est quand on a fait un petit voyage. On est parti 3 semaines là-bas et on a atterri à Houston au Texas et on s'est baladé par la Louisiane. On est remonté dans le Mississippi, et ensuite on est redescendu à la Nouvelle-Orléans. Mais alors la baigne que j'ai prise, la vraie quoi, c'est celle quand on est rentré dans le Mississippi, dont je n'attendais rien en fait. Je me disais, bon, c'est chouette, mais j'avais pas de référence, j'avais pas toute cette culture, je m'attendais à rien en fait, je savais pas, c'est tout. Et dès qu'on est rentré dans le machin, je sais pas pourquoi, ça m'a hyper passionné, hyper marqué. À la Nouvelle-Orléans, j'ai adoré, mais je m'y attendais. Mais le truc le plus profond, ce qui m'a le plus bougé, c'est vraiment le Mississippi. C'est incroyable.
Gilles.
Et moi, sur le ton de la plaisanterie, je me disais, je vais faire 7000 km pour me retrouver à la campagne. Parce que moi, je viens de Touraine. Alors, pour les auditeurs, la Touraine, c'est le centre de la France. Alors, c'est vraiment le centre. Mais c'était amusant parce que les amis là-bas nous disaient, attention, mettez des chaussures hautes parce qu'il y a plein de tiques ici. Mais je dis, ouais, comme chez moi, j'ai un terrain immense, il y a plein de tiques. Et c'était, donc j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé la maison. Mais justement, ça a mis en valeur toutes ces petites différences. Il y a plein de points communs, mais avec une saveur, des atmosphères qui sont très spéciales. Et donc c'est plutôt des correspondances, encore une fois. C'était un peu en écho à la musique qu'on a produite, je crois.
L'équipe de l'épopée était l'année dernière au même endroit pour réaliser quelques reportages et j'ai eu le sentiment que l'histoire vous sautait aux yeux, mais qu'il fallait quand même pousser des portes pour que l'on vous raconte. Est-ce que vous êtes d'accord, Tia ?
Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dans ces régions, qui ont pris des choses et qui ont un peu méprisé au final les gens et ce qu'ils vivent là-bas. Mais une fois que certaines barrières sont passées, qu'ils voient la sincérité, c'est vrai qu'on a eu des rencontres vraiment fabuleuses. Il y a des gens qui sont devenus des amis très proches. On a eu droit à des histoires et découvrir des objets, des choses qui sont, qu'on donne pas comme ça, en fait, là-bas.
Prenons par exemple les Dockery Plantation. Si on ne pose pas de questions, on peut passer à côté de ce lieu légendaire dans l'histoire du blues.
Oui, c'est vrai. Après, quand on était là-bas, on a été livrés à nous-mêmes. On a dû gérer un gros serpent et puis une tempête qui n'est jamais arrivée.
Qu'est-ce que vous avez ressenti sur place, Marc ou Gilles ?
Dans cet endroit,
oui,
particulièrement ?
Les Dockery Plantations.
Alors, on dit, la légende dit, moi je suis probablement pas le mieux placé pour parler de ça, mais que les premières formes de blues seraient apparues là-bas. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive, il y a déjà de la musique qui se met en route.
Il y a le vent.
Puis le vent, ce jour-là, on était servi en plus, nous. Et c'est vrai qu'on sent quand même un truc bizarre, quoi. On a quand même un petit peu des éléments culturels pour savoir que c'est un lieu chargé. Il n'y a pas que l'histoire de la musique, quoi. La musique, c'est presque le verre à moitié plein. Mais le verre à moitié vide, il nous prend quand on arrive là-bas, quoi. Donc c'est vrai, de faire de la musique là, ouais, moi j'étais sensible à ça, vraiment.
Il faut savoir qu'il y a une route très passante à proximité des Dockery Plantation. Comment avez-vous fait pour enregistrer dans ces conditions, messieurs, dames ?
Eh bien déjà, on a travaillé avec quelqu'un qui est extraordinaire, qui s'appelle Pierre Bianchi, qui est l'ingénieur du son, qui, je pense, peut enregistrer dans toutes les conditions possibles.
Plus le son pourri, plus il est content.
Avec très peu de moyens. Donc quelqu'un qui est capable de travailler avec moins de technologie que ce qu'on a aujourd'hui et de faire un tel résultat. Parce que quand on a enregistré à Dockery, on était dans ce qu'on appelle un Porsche, qui était un peu plus loin de la route. Donc c'est un grand Porsche qui était plus près de la rivière, mais il y avait énormément de vent. Donc on a tendu des couvertures complètement pourries autour des micros pour nous isoler un peu de tout ça, quoi. Mais c'est grâce à Pierre qu'on a toute la couleur de l'environnement. Il a gardé les aboiements des chiens, les bruits des crapauds. Enfin, il y a plein de choses qu'il a volontairement mis. Et quand les gens, ils écoutent le disque, ils font merci parce que quand on vous écoute, on part en voyage avec vous là-bas, quoi.
C'est exactement ça. Comme nous allons pouvoir nous en rendre compte, vous avez conservé les nuisances sonores de la circulation routière qui sont devenues la bande son de votre album.
Tell me, baby, why do you got
She-Wolf, un extrait de Muddy Gurdy signé Hypnotic Wheels, un trio français que nous sommes enchantés d'accueillir aujourd'hui dans l'épopée. Comme vous pouvez l'imaginer, il nous est impossible de raconter toute votre aventure, mais j'aimerais que nous disions deux mots de Pat Thomas. Qui est ce monsieur et quels souvenirs vous garderez de lui, Marc, Gilles ou Tia?
Moi j'étais extrêmement ému, pareil on l'a découvert grâce à Tia. Alors là on est vraiment dans la sensibilité à fleur de peau, quoi. C'est vraiment... Pierre aussi, il a fait des miracles, c'est-à-dire que là, il s'agit...
Pierre, pas... c'est l'ingénieur du son.
Oui, pardon, parce qu'évidemment, à Pat, on ne peut pas lui dire « Alors attends, on va s'installer, on va mettre la table de mixage et tout. » Là, on arrive et il est dans son monde, dans son écosystème, qui est magnifique, il ne faut rien abîmer. Et en plus, il n'a pas besoin de nous, ce qu'il fait, c'est magnifique. Donc, il faut arriver délicatement à... Déjà, il a la gentillesse de nous recevoir, à trouver les notes, à trouver le moyen de se mêler à sa musique. Et,
Il joue de la guitare et il chante, juste pour...
Oui, voilà, du c'est...
Et c'est le fils d'un bluesman qui s'appelait Jameson Thomas. Il y a beaucoup de documents sur lui grâce à un homme fabuleux qui s'appelle William Ferris. Donc Jameson Thomas est quand même relativement connu, on va dire. Et son fils, un de ses fils, reprend un peu ce que faisait son père. Nous, on l'avait rencontré en 2012. Donc à Leyland, il y a un musée qui s'appelle le musée Highway 61. Parce que Leyland, c'est un tout petit bled. Pareil, il y a beaucoup de misère, mais bon, c'est un bled qui a vu naître des gens comme Johnny Winter, puis d'autres bluesmen qui sont un peu moins connus. Pat Thomas vient régulièrement jouer dans ce petit musée, donc les touristes ou les gens qui s'intéressent à la route du blues découvrent Pat avec ses yeux tout pétillants, ses yeux bleus, son attitude un peu d'un enfant. Il a quelque chose de... on a l'impression qu'il est un peu céleste, je sais pas comment dire. C'est vraiment un personnage un peu particulier.
Ouais. On pourrait continuer encore très longtemps à vous écouter parce que c'est une aventure quand même ce périple aux États-Unis. J'aimerais vous remercier d'être passé nous voir ici à Paris et je conseille fortement à nos auditeurs d'écouter votre album Muddy Gurdy. Merci à vous.
Merci beaucoup, Joe.
Des dates de concert sont-elles prévues dans le Mississippi en 2019?
Bien sûr.
Non, rien de prévu particulier?
Pour l'instant, non, mais ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait
refaire.
On
est à la recherche d'un booker et voilà, il y a des choses qui se positionnent gentiment, on va dire. On va voir.
Quoi qu'il en soit, félicitations à vous trois.
Merci beaucoup.
Un rendez-vous à noter avant de se quitter, le fabuleux bassiste Reggie Washington présentera son nouvel album Vintage New Acoustic le 12 février prochain au New Morning à Paris et Tour et Kunda se produiront le 15 février au Tamanoir à Gennevilliers, tout près de Paris, dans les Hauts-de-Seine. La semaine prochaine, nous parlerons blues à nouveau avec Rhys Winans, l'ancien pianiste et ami du très regretté Stevie Ray Vaughan, immense guitariste disparu il y a bientôt 30 ans. Merci à Nathalie Laporte qui a su recréer en régie finale l'ambiance blues rurale du Mississippi. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
That's cool.